autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour rêver ensemble aujourd'hui, ça tombe bien, en nous demandant comment nous inspirer de nos rêves, pour créer, pour se réinventer chaque matin. Vos nuits sont-elles plus belles que vos jours, plus fertiles, plus fécondes peut-être ? Êtes-vous grand ou petit rêveur ? Rêvez-vous d'ici quand vous êtes ailleurs et d'ailleurs, quand vous êtes ici, qu'est-ce que nos rêves disent de nous ? Comment les étudier ? Comment les cultiver ? Comment tirer ce fil, ou pour reprendre l'expression de Borges, cette corde de sable ? En compagnie de nos invités, la chercheuse en neurosciences cognitives Perrine Ruby, qui étudie nos songes, la chanteuse Barbara Carlotti, qui s'est inspirée de ses propres rêves pour son dernier album Magnétique, et l'anthropologue Arianna Cecconi, qui collecte dans les quartiers nord de Marseille les rêves d'ici et d'ailleurs, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, autour de la question comment s'inspirer de nos rêves. Bienvenue dans notre laboratoire onirique.
C'est une histoire de rêve.
Non ?
Si, c'est un rêve qui raconte un rêve. Un rêve.
Nous voilà bien dans La science des rêves de Michaël Gondry avec vous, Perrine Ruby, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chercheuse en neurosciences cognitives, directrice de recherche à l'INSERM, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, où vous étudiez les rêves. Vous cherchez à comprendre, Perrine, pourquoi et comment on rêve, ou plus exactement ce qui se passe dans notre cerveau quand on rêve, c'est ça ?
Oui, c'est ça, un peu mon rêve à moi. Mais c'est un rêve qui est possiblement plus difficile que de gagner une Coupe du Monde, je ne sais pas.
D'explorer les rêves.
Oui, c'est effectivement... En fait, le problème qu'on a avec le rêve, c'est qu'on ne sait pas le localiser dans le temps. Du coup, on ne peut pas matériellement enregistrer l'activité du cerveau quand on est en train de rêver. Donc, on n'a pas trouvé la clé encore.
On parle des rêves nocturnes, hein, la nuit. On n'a pas trouvé la clé des songes parce qu'on rêve tout le temps la nuit, c'est ça ?
Mais c'est ça qui est incertain. En fait, on sait qu'on peut rêver dans tous les stades de sommeil, mais on ne sait pas si on rêve tout au long de la nuit.
Donc c'est compliqué de l'étudier. Alors vous étudiez les grands et les petits rêveurs. On va y revenir, Perrine. Bonjour Barbara Carlotti.
Bonjour.
Alors vous êtes une grande rêveuse, hein, je crois.
Absolument.
Et Perrine Ruby, à qui vous avez entre autres confié vos rêves, va le confirmer. Mais vous avez toujours été intéressée, Barbara, par votre propre monde onirique, au point d'en faire le fil conducteur de votre création. Votre dernier album, Magnétique, est directement inspiré par vos rêves. C'est une vraie démarche, alors à la fois artistique, j'ai envie de dire, et presque quasiment scientifique.
C'est surtout une démarche artistique, mais en tout cas pour vraiment me plonger dans et trouver une méthode, en fait, j'ai essayé d'explorer les rêves de façon un peu plus large. Donc je suis allée trouver Perrine Ruby, effectivement, à l'INSERM à Lyon, pour lui poser beaucoup de questions, pour qu'elle puisse me donner une vision plus large que celle qu'on a comme ça, de manière quotidienne, quand on parle peu de rêves en fait. Et donc j'avais besoin de connaître un peu les dernières recherches scientifiques qui étaient menées pour mieux comprendre en fait les mécanismes, et puis du coup pour moi trouver des idées pour fabriquer mon album.
Alors pour fabriquer cet album, je propose qu'on l'écoute, parce que vous nous faites partager dans cet album votre processus de création onirique. Magnétique. Barbara Carlotti rêve à la première personne sur RFI.
Les nuits de dérive ont trouvé un miroir. Les mots s'affichent, sans discontinuer. Question-réponse en synergie diffuse, le monde immatériel a pris le pas sur la réalité. Les nuits de dérive ont trouvé un écho, un choc léger sorti des vases clos. Le lit de nos pensées. Le lit est japonais. Nos désirs sont dictés par une chaleur exsangue. Loi invisible, menace trouble. Il y a deux agents doubles. Un loup insomniaque rôde en cercle concentrique. Étreinte hypothétique. Nous sommes encerclés et les coups vont tomber. Nous sommes encerclés et les coups vont tomber. La lumière des écrans brille sans discontinuer. Obsession magnétique. Le monde alors ne
politique, Barbara Carlotti sur RFI. Vous êtes en direct avec nous, Barbara, autour de la question comment s'inspirer de nos rêves. C'est un de vos rêves, ce magnétique-là.
Ça, c'est la conclusion de l'album, en fait. Tout l'album, j'ai construit me réveillant méthodiquement toutes les heures et demie à peu près à la nuit, en essayant de que ça cadre avec mon sommeil paradoxal.
Et pour essayer de vous réveiller à chaque fin de rêve et noter chaque fin de rêve.
Non, pas à chaque fois que je suis dans le sommeil paradoxal. Donc, comme disait Perrine tout à l'heure, chaque moment, en fait, où les rêves sont assez intenses et dont on s'en souvient plus facilement. Moi, je suis une grande rêveuse, c'est vrai que je rêve beaucoup et que je peux faire 4 à 5 rêves par nuit, dont je me rappelle plus ou moins. Mais là, c'était pour en profiter au maximum et prélever toute cette matière de rêve, c'est-à-dire à la fois des scénarios, à la fois des mélodies qui me venaient en rêve, des images et parfois des formules. Magnétique qu'on vient d'entendre, c'est plutôt une sorte de réflexion qui m'est venue ensuite à la fin.
C'est un rêve éveillé.
Voilà, c'est plutôt un rêve éveillé et surtout sur le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on dort de moins en moins. Et donc, comment trouver le rêve aussi dans ces espaces-là ?
Perrine Ruby, je vois que vous avez hoché la tête. Et vous, finalement, on peut dire que Barbara, en venant vous voir, a bien compris quand elle dit se réveiller toutes les heures et demie pour essayer de travailler à partir de la matière même de ses rêves.
On a très longtemps dit en fait qu'on rêvait que en sommeil paradoxal. En fait, ça a été le résultat de recherches de la fin des années 50. Mais maintenant, on sait bien qu'on rêve dans tous les stades de sommeil. Donc, on peut se souvenir d'un rêve à n'importe quel moment de la nuit, si on se réveille à n'importe quel moment. Mais effectivement, on se souvient plus facilement de ses rêves si on se réveille en sommeil paradoxal. Du coup, effectivement, c'était une bonne stratégie. Pour autant, dans la théorie dit qu'on est en sommeil paradoxal toutes les heures et demie. Après, si on n'a pas d'électrode sur la tête, on ne peut pas être sûr de ça. Donc,
processus créatif.
Mais de toute façon, se réveiller toutes les heures et demie, c'est sûr qu'on augmente ses chances de se souvenir de ses rêves, parce que pour s'en souvenir, il faut se réveiller au moment où on est en train de les faire. Donc, si on se réveille plusieurs fois par nuit, on a autant de plus de chances de s'en souvenir.
Et puis, Barbara, tu me diras, Perrine, si je me trompe, mais aussi quand on s'endort, en fait, on a beaucoup de, sortes d'hallucinations hypnagogiques ou de débuts de rêves qui sont particuliers, qui sont pas du tout les mêmes qu'en sommeil paradoxal. Donc le fait de se réveiller plusieurs et de se rendormir plusieurs fois dans la nuit,
ça fait rêver.
Ça augmente en tout cas notre approche de cet état-là, en fait, parce que c'est aussi un état dans lequel on passe et puis dont on ressort, quoi.
On va revenir sur cet état-là, hein, cet état de rêve, état de conscience modifié. Mais d'abord, on va dire bonjour à Ariana Tchekoni.
Bonjour.
Bonjour Ariana. Alors vous êtes anthropologue, chargée de cours à l'université de Milan. Vous étudiez la matière même, justement, de nos rêves. Vous les collectez aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille pour un projet anthropologique et artistique, lui aussi, Rêver la Méditerranée. Cet intérêt pour les rêves des autres est né, Ariana, si j'ose dire, au Pérou. C'est ça, dans les communautés avec lesquelles vous travaillez plutôt sur des questions de mémoire et de violence, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Mais dans le Pérou, la démarche de Barbara, c'est un peu une démarche qui, dans certaines sociétés, est, on pourrait dire, collective et quotidienne. C'est-à-dire, on s'inspire des rêves. C'est vraiment les rêves sont conçus comme une source d'information, d'inspiration, des savoirs. Et donc, par exemple, dans les Andes péruviennes, tous les matins, la première réflexion est « qu'est-ce qu'on a rêvé ?» Parce qu'à partir de cela, cela influence les choix, les décisions. Et cela est aussi reconnu collectivement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage dans la société.
Donc le rêve, il est évidemment singulier. Chacun rêve son propre rêve la nuit. Mais dans ces communautés-là, on le partage et on l'interprète ensuite, j'imagine.
On l'interprète, oui, selon des codes qui sont des codes traditionnels. Mais aussi vraiment l'importance du partage, parce qu'il y a aussi l'interprétation, ça se fabrique aussi collectivement. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est très différent par rapport à notre société, où on a plutôt la tendance à voir les rêves comme une expérience de l'intime, alors que là c'est plutôt, vu que aussi les rêves sont dits venir d'ailleurs, donc c'est du dehors, c'est comme quelque chose qu'on peut raconter parce que ça nous traverse, c'est pas quelque chose qui vient de notre tête, mais c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit. Et donc c'est pour cela aussi que ça circule très différemment par rapport à ce discours sur les rêves et un discours collectif.
Et c'est ce qui vous a donné envie d'étudier ou de collecter, de rassembler les rêves de communautés à Marseille, où vous êtes aujourd'hui, de communautés qui viennent d'ailleurs, de communautés de migrants qui vivent à Marseille et qui rêvent d'ailleurs aussi.
Oui, ouais, c'est ça que justement je me suis continuée à interroger sur les rêves et je voulais aussi l'observer dans la société européenne parce que je me disais, oui, qu'est-ce que ça veut dire le Pérou est une société à rêve, parce qu'on pourrait dire vraiment qu'il y a une place sociale du rêve. Mais je me suis demandé dans nos sociétés aussi quelle est la place du rêve. Et donc j'ai commencé aussi en Italie, en Espagne et à Marseille. Ça s'est venu tout de suite la question de la diversité des interprétations, parce que j'ai travaillé dans un quartier comme le quartier Nord où il y a vraiment beaucoup de communautés qui viennent d'ailleurs et où du coup il y a vraiment on a aussi des conceptions des rêves différents et une manière aussi de les utiliser.
Comment utilise-t-on les rêves? À quoi servent-ils? Donc en Orient, en Occident, beaucoup de chercheurs, de scientifiques que j'ai reçus ici même dans ce studio disent que certaines de leurs découvertes ont émergé d'une bonne nuit de sommeil et de certains rêves. Autour de la question comment s'inspirer de nos rêves et de notre vie onirique pour créer, nouvelle question pour vous, soulevée par David Fossé, rédacteur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace.
Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est réellement documenté qu'on puisse faire des découvertes après un rêve? Enfin, il y a des tas d'exemples. Donc, est-ce que le rêve, c'est la porte vers la découverte, finalement?
Perrine Ruby, votre réponse de chercheuse sur le rêve.
Alors, je voudrais déjà féliciter le monsieur qui a posé la question, parce que je trouve sa question vraiment très jolie. Je ne sais pas si je vais réussir à faire aussi bien avec ma réponse. D'une manière ou d'une autre, c'est sûr que oui. Après, pour la question de est-ce que vraiment on fait le sommeil et le rêve augmentent nos chances de faire des découvertes majeures, importantes, très créatives, j'ai envie de dire, on a des exemples célèbres, mais ils sont pas si nombreux que ça.
On a des exemples célèbres de mathématiciens, de scientifiques qui ont vraiment eu un eureka pendant la nuit ou au réveil le matin.
Oui, et d'artistes aussi. Hein, classification des éléments de Mendeleïev, par exemple, le cycle du benzène, la machine à coudre, la sonate du diable de Tartini. Il y a un certain nombre d'exemples célèbres. Pour autant, quand vous voyez le nombre d'hommes qui ont vécu sur cette planète et le nombre de rêves qui sont faits toutes les nuits, si le rêve avait vraiment un rôle là-dedans, le sommeil et le rêve, je pense qu'on aurait plus d'exemples. Donc c'est certain qu'il y participe. Après, ceux auxquels on a accès, c'est ceux dont les gens se sont souvenus. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui se passent, mais dont on n'a pas vraiment conscience. Et il n'y a pas que la vie consciente. Donc
il y a l'inconscient quand on parle des rêves, évidemment. Il y a le passé, il y a la mémoire, il y a la manière dont on l'interprète. Mais on rêve toutes les nuits. Peut-être que si on rêvait plus, on découvrirait plus, ou on inventerait plus, on n'en sait rien. Mais le rêve permet quoi? Est-ce qu'on le sait, ça, un peu? De faire un pas de côté dans nos pensées, de penser autrement, de revisiter la journée qui vient de se passer, de préparer celle du lendemain? Ce serait quoi la fonction du rêve? Ou qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, Perrine Ruby?
Et c'est le deuxième rêve. Hein, il y a d'abord essayer de savoir ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve, qui n'est pas évident. Mais ce qui serait encore beaucoup, beaucoup mieux, c'est évidemment d'avoir une idée de la fonction éventuelle du rêve. Et là, c'est vraiment pas clair. On n'a même pas d'idée très claire de la fonction du sommeil. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas rendu. Pour autant, dans l'état actuel des connaissances, il y a au moins deux éléments qui me semblent certains, j'ai envie de dire, c'est quand on se souvient de ses rêves, on voit bien le pas de côté que ça nous fait faire effectivement par rapport à notre vie, parce que il y a des métaphores incroyables sur les choses qu'on a pu vivre dans la journée, et puis il y a un décalage et une créativité qu'on n'arriverait pas à avoir à l'éveil. Donc c'est toujours inspirant de pouvoir regarder ça, c'est mieux que le cinéma, j'ai envie de vous dire.
C'est notre propre cinéma, mais qui nous concerne, nous.
Moi, j'ai jamais rien vu au cinéma qui soit la cheville d'un rêve. Ah oui, moi je trouve. Mais bon, c'est un avis personnel. Et disons qu'il y a ce qu'il y a de remarquable dans un rêve et qu'il n'y a pas au cinéma, c'est qu'on vit les émotions en première personne. C'est-à-dire que quand on a peur, on a vraiment peur. On croit que c'est vrai. Donc le cinéma, il n'arrive pas à faire ça. À part peut-être chez les enfants. Donc ça, c'est la première source qui me semble majeure d'intérêt du rêve. Après, savoir si c'est sa fonction, c'est une autre question. Et après, il y a des études qui montrent que se pencher sur ses rêves et les mettre en lien avec ce qu'on a vécu dans notre vie éveillée, avec différentes méthodes, comme pouvait le proposer Freud ou comme d'autres méthodes en psychologie clinique le proposent, ça permet de faire des découvertes sur soi-même, de faire des liens qu'on ne fait pas spontanément.
C'est bien que plutôt que de chercher une clé des sons, une interprétation qui serait la même pour tout le monde, ce serait plutôt de s'interroger soi-même sur ce que ça nous dit à nous,
exactement.
Ce que l'on vient de rêver.
Exactement, et là c'est reconnu dans la communauté du coup de psychologues cliniciens qui utilisent les rêves. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été publiés qui montrent que c'est vraiment un bénéfice dans une psychothérapie d'utiliser les rêves, petit 1 avant tout. Premièrement, parce que les gens sont très demandeurs de ça, parce que c'est très intriguant de se réveiller avec un rêve qu'on ne comprend pas.
Ils sont souvent très intrigants. Est-ce qu'on a une piste, justement, sur ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Vous parlez de cinéma, mais ce sont des films complètement fous, complètement délirants. Pourquoi c'est aussi compliqué que ça, les rêves, souvent? Alors les miens, peut-être, mais...
En tout cas, ça nous dit que contrairement à cette idée qu'on a qu'on est en train de se reposer, on fait pas que ça. C'est surtout qu'on fait autre chose et différemment. Et donc le cerveau est pas câblé de la même manière pendant le sommeil et à l'éveil. Et du coup, il fait les choses différemment. Et c'est vrai que on a l'impression que d'abord il y a beaucoup d'informations qui arrivent à la conscience. Et se mélange de manière tout à fait inattendue. Donc il y a beaucoup de surprises, de choses qui ne se passeraient pas, et qui côtoient une capacité tout à fait incroyable à faire des métaphores. Donc c'est un niveau de cognition qui est très élaboré, c'est-à-dire que ça prend quelque chose que vous avez vécu la journée, et ça le met dans un autre contexte, ça le transforme, ça symbolise presque ce que vous avez vécu, et ça c'est très frappant quand vous faites attention à vos rêves, de vous rendre compte de ça en fait, de sortir c'est très vrai avec des situations émotionnelles en général.
Parce que les rêves ont évidemment beaucoup à voir avec l'émotion, avec la mémoire, et ils ont effectivement un contenu dont on reviendra évidemment avec Ariana. Barbara, vous qui avez noté vos rêves, qui êtes partie vous isoler dans une maison, vous réveillez toutes les heures et demie pour composer votre album magnétique, vous avez l'impression que ça vous aide à quoi? À découvrir à ouvrir une autre porte sur votre imaginaire, à laisser sortir d'autres éléments inattendus, loufoques, bizarres, paradoxaux?
C'est ce que dit Perrine complètement, c'est-à-dire moi je suis en joie quand je l'écoute parler parce que effectivement cette créativité-là, en fait, à l'état conscient, elle est difficile à obtenir. Et donc je pense que quand on... Mais comme... les poètes surréalistes ou de la Beat Generation l'ont fait, hein. Les grands artistes l'ont fait bien avant nous, je pense, enfin en tout cas avant moi. Je pense qu'il y a une ouvrir cette porte-là, effectivement, ça génère en fait des formes nouvelles auxquelles on peut pas penser consciemment. Même en tant qu'artiste qui a l'habitude aussi de se mettre dans des états peut-être un peu différents pour créer.
Mais... C'est quoi? C'est un autre état de conscience, d'inconscience?
Oui, c'est un autre état de conscience, je pense. Enfin, en tout cas...
Perrine, c'est un autre état de conscience, le rêve?
Oui, de toute façon, là, c'est pas critiquable, on ne peut pas se tromper, c'est descriptif, de fait.
Et puis, je crois qu'effectivement, moi, il y a vraiment, je pense qu'il y a une matière d'images, de pensées, de sons, de choses qu'on aborde et qui, pour moi, est un miroir de la réalité, hein, mais qui effectivement, qui a des connexions. Les métaphores dont parlait Perrine, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, ça a une portée, pour moi, une plus grande profondeur, en fait. Et du coup, ça me donne plus de liberté dans la création, en fait. C'est surtout ça.
Je crois que c'est le cas dans cet album magnétique pour une chanson qui est directement sortie de vos nuits.
Ouais.
Vous nous la lancez sur RFI, Barbara Carlotti? On l'écoute et vous nous en parlerez après.
Très bien.
Allez-y.
Voir les étoiles tomber. Marcher seul sur le volcan, le feu déclenche.
les étoiles tombées, Barbara Carlotti, extrait de votre dernier album Magnétique. Et c'est un morceau qui a émergé de vos rêves.
Je me suis réveillée un matin avec vraiment le refrain ficelé, c'est-à-dire paroles et musique. Donc c'était assez amusant de me retrouver vraiment avec un refrain entier. Ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de temps, parce que les souvenirs des rêves sont volatiles et c'est difficile de les... Surtout pour la musique, c'est difficile de les fixer.
Mais là, vous aviez, c'était tout à fait conscient. C'est-à-dire que ça faisait un moment que vous travailliez à vous réveiller toutes les nuits pour rêver.
Il est arrivé un matin, au bout de quelques temps. Bien sûr que je pense que le processus était engagé en moi, du fait que, évidemment, j'étais en train de travailler un album, mais qu'il m'arrive une chanson en rêve, en tout cas un refrain de chanson entier en rêve, ça ne m'était jamais arrivé. Parfois on a des mélodies, parfois on a des bouts de texte, mais c'est des choses très courtes.
Là, un cadeau de la nuit.
Là, c'était vraiment un cadeau. Ouais, c'était vraiment un vrai cadeau.
Perrine Ruby, quand Barbara disait que finalement les rêves étaient une sorte de miroir, vous aviez envie d'ajouter un adjectif à ce mot miroir.
Oui, je trouvais que c'était très juste, surtout si on ajoutait déformant. Ça m'a l'air imparfait.
Les rêves seraient un miroir déformant de notre réalité. Autour de la question, comment s'inspirer de nos rêves ? Miroir déformant, c'est une vieille question, Arianna Cecconi, comment s'inspirer de nos rêves ? Et une question, on l'a dit, qui a hanté les hommes sous toutes les latitudes, à toutes les époques. Certains peuples s'en inspirent plus que d'autres, mais finalement nos rêves, ils sont individuels, mais ils sont aussi un peu collectifs.
Ah oui, moi je suis tout à fait convaincue de ça. Je pense que la société rentre dans nos rêves et l'histoire, c'est-à-dire c'est très difficile même dans les rêves voir séparer les symboles individuels et collectifs, parce que c'est très mélangé, c'est-à-dire nous on est des êtres historiques et sociaux, et nos rêves reflètent une manière déformante, mais reflètent cette réalité-là.
Et vous avez monté ce projet de recherche, donc Rêver la Méditerranée, projet anthropologique, projet artistique. Il y a également un site, un oniroscope, sur lequel on peut partager ses rêves. Mais pourquoi justement monter un projet pareil ? Comment faire raconter ses rêves à des habitants des quartiers nord de Marseille ?
Mais donc, dans ces projets, je collabore avec l'artiste Tuya Kerici, qui est donc elle est une plasticienne et vidéaste. Et l'idée, c'est justement pour parler des rêves, d'essayer aussi des outils comme l'image vidéo, les matières, pour pouvoir élargir, parce que c'est très difficile de raconter un rêve. C'est pas évident. Ces fois, on n'arrive pas à les préciser parce qu'on n'a pas les mots aussi pour les décrire. Et donc, avec Tuya, on cherche des démarches justement pour s'inspirer avec l'utilisation des pratiques artistiques pour aider les gens à raconter leur rêve.
Qu'est-ce que nos rêves disent de nous, de notre condition humaine, de notre condition migratoire ou exilée ? Dans quelle langue rêve-t-on ? Rêve-t-on à partir d'ici ou à partir d'ailleurs ? La question peut se poser aussi beaucoup à Marseille. Et vous nous avez envoyé un petit embryon de réponse, forcément subjective, issue de votre collecte, Arianna, à Marseille, pour ce projet anthropologique Rêver la Méditerranée d'une rive à l'autre. Rêve-t-on exactement pareil ? On écoute.
Quand je rêve, moi je suis le plus souvent au pays. Souvent, c'est le lieu, c'est le pays. Donc, on se croit ici, avec des gens d'ici le plus souvent, mais on est ailleurs. Donc, on ne peut pas tirer plus que ça. Parce que déjà ici, j'ai mes enfants ici, mes petits-enfants, toute ma famille sont. Alors, mes sœurs à Paris, par-ci, par-là. Donc, ma pensée reste ici, avec eux. Donc, mais quand je rêve, normalement, je me trouve toujours projetée vers là-bas. Dans une maison de là-bas, dans ma maison de là-bas, des trucs comme ça.
Ouais, moi aussi, souvent, je fais des rêves de quand j'étais petite, pas. Dans la maison, de là où j'ai grandi. Ben, je rêve de l'appartement. J'ai l'impression que cet appartement, ça a grandi, mais c'est toujours le même, et que je vis ma vie dedans. Comme si j'avais... un moment de ma vie dans cet appartement-là. C'est bizarre, hein ?
Souvent. Et les maisons, et l'appart où vous vivez maintenant ?
Jamais.
L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais chez ma grand-mère encore.
Et c'était où la maison ?
En Algérie.
Et la maison, c'était pareil que dans la réalité.
Pareil. Oui. Mais en fait, la maison, elle était là-bas. En fait, la maison de ma grand-mère, mais elle se situait ici à Marseille. Avec des personnes de là-bas et d'ici, qui étaient dans la même maison.
Arianna, les rêves des habitants des quartiers nord de Marseille, ils rêvent d'ailleurs, ils rêvent
d'une autre terre qu'ils ont quittée. Souvent dans les rêves, on rêve quoi ? On rêve qu'on est à Marseille, on rêve qu'on est à Alger, on rêve qu'on est aux Comores.
Bachelard disait que souvent on rêve la maison natale pour se reposer. Et je trouve que quand on a une expérience migratoire, et souvent des expériences exilées, qu'on ne peut pas retourner chez soi pour différentes raisons, cette rêve de la maison natale prend une importance majeure. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui habitent à Marseille depuis 40 ans, mais qui continuent à rêver cette lieu de l'autre côté de la Méditerranée. Et le rêve est vraiment, donc à la fois, on ne peut pas que parler de nostalgie, parce que c'est vraiment au lieu où c'est les enjeux identitaires se jouent vraiment. C'est-à-dire, c'est au lieu des métissages, comme disait la dernière femme, des personnes qui ne peuvent pas se rencontrer dans la vie diurne, se rencontrer rêve, les lieux qui s'y modifient dans les rêves et incorpore la vie que la personne fait dans son projet migratoire. Mais je trouve que c'est très important parce que vraiment, à partir du rêve, on peut vraiment aussi observer comme tous les travails de la subjectivité, mais aussi de la collectivité, parce qu'on est tous migrants aussi. Dans ces cas-là, c'est très évident parce qu'ils migrent de pays lointains, mais j'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui migrent aussi dans la France rurale, à Marseille, ou partout. Et cette idée vraiment d'être voyageur et de voyager un rêve, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, que les rêves nous permettent de voir toutes nos vies qui s'y recoupent et s'y rassemblent.
Perrine Ruby, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, à la fois sur cette mosaïque, à la fois sur le fait que quand on est migrant, peut-être que le rêve peut consoler, peut-être que le rêve peut permettre de se reposer, justement, en rêvant de la terre natale, et le rêve aussi qui est porte ouverte, subjectivité, mais aussi rêve collectif. Comment est-ce que vous réagissez en tant que chercheuse en neurosciences quand vous entendez les sources ramenées par Ariana?
Bon, on travaille sur la même chose, juste avec un angle différent, et c'est très important d'avoir des angles différents, en particulier sur cette question-là. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut réussir à dissocier deux choses, parce que du coup, avec une perspective scientifique, quand on parle de fonction, quand on parle de la fonction de l'intestin, c'est son rôle pour la digestion des aliments qui nous permettent d'alimenter nos cellules et de survivre. Pour autant, il y a des cultures qui feraient quelque chose des déjections, des productions artistiques ou je ne sais. Et du coup, là, c'est pas la fonction de l'intestin de créer ces productions artistiques.
Vous travaillez sur la fonction du rêve.
La métaphore que je veux faire ici, c'est que si le sommeil et le rêve jouent une fonction biologique, elles jouent une fonction biologique la même chez tout le monde de la même manière. Ça, on n'a pas encore identifié, c'est possible, j'imagine. Pour autant, une fois qu'on a un rêve dont on se souvient, ce qu'on en fait, ça peut avoir une toute autre fonction, une toute autre existence, et ça, c'est différent en fonction des cultures. Et c'est une extension, on peut dire, de la fonction du sommeil ou du rêve. Ça lui est très fortement lié, mais c'est vraiment une décision consciente et qui est influencée par la culture, et c'est ce sur quoi travaille Ariana. Et je trouve que c'est vraiment passionnant et important d'entendre ça, parce qu'on se rend compte de... C'est une autre manière de mettre en lumière l'importance du rêve. C'est-à-dire que n'importe comment qu'on le regarde, toutes les sociétés ou toutes les personnes qui se penchent sur la question, d'une manière ou d'une autre, on arrive à percevoir ça. Un sentiment d'importance et de quelque chose, oui, très lié à une espèce d'intimité, soit individuelle, soit collective, tout à fait. Hein. Et je rejoins tout à fait ce que tu disais sur la complexité de différencier les symboles, soit collectifs, soit personnels. Ils sont très probablement mélangés. Ça rejoint aussi le travail qu'avait proposé Jung.
Entre l'individuel et le collectif, entre la fonction du rêve et puis ce qu'on en fait, Barbara, l'artiste que vous êtes, a décidé d'en faire quelque chose de ces rêves, de ce mystère, de cette énigme que l'on peut étudier, et sous toutes les facettes qu'on le prenne, ça nous intéresse, parce qu'en plus, on passe beaucoup de temps dans notre vie à rêver, et heureusement, finalement. Mais ça vous intéresse en tant qu'artiste? Ça vous a toujours intéressé, Barbara?
Ça m'a toujours intéressé, mais j'en faisais rien artistiquement jusqu'à récemment. Et je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de découvertes un peu plus précise d'imagerie sur le cerveau et tout ça, où je me suis dit... Et puis, cette idée du transhumanisme, où on commence à penser à transformer l'homme, alors qu'on connaît quasiment rien de ce qui se passe déjà dans son ordinateur central, je dirais. En tout cas, moi, ma vision d'artiste, je me suis dit, ça m'a porté à essayer de d'aller en tout cas moi fouiller dans cette effectivement cette énigme du sommeil et du rêve, et aussi parce que voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a quand même je pense qu'il y a une grande culture dans l'art de ça, en fait, de cette idée du rêve. Il y a enfin les artistes ont besoin, en tout cas globalement ils se mettent dans des états où ils ont besoin de rêver pour faire avancer leur travail. Donc,
alors, les artistes ont compris l'importance du rêve. Comment et dans quel état se mettre pour s'inspirer de nos rêves? Nouvelle question pour vous, soulevée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Il existe une technique ou des techniques qui permettent de maîtriser en partie ses rêves, les rêves lucides. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre facilement, et est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut recommander, ou à l'inverse, c'est plutôt quelque chose qui va perturber le cycle naturel de ses rêves ou de son sommeil?
Perrine Ruby, faut-il recommander le rêve lucide?
Alors, le rêve lucide, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup.
C'est quand on est en train de rêver et qu'on se rend compte qu'on rêve, hein, c'est ça. Hein.
Exactement, ça définit simplement le fait qu'on prend conscience de rêver au moment où on est endormi et où on fait le rêve. Et ça déchaîne un peu les passions, parce que c'est une sorte de version 8.0 du jeu vidéo en réalité virtuelle, où en fait là on est
dedans, on est dehors, on est partout, quoi, finalement.
Oui, et puis surtout on a toutes les sensations en vrai, en fait, parce que là quand on...
Mais c'est pas du virtuel, hein.
Non, c'est-à-dire que quand, et c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, quand, en particulier en sommeil paradoxal, quand vous rêvez que vous courez, votre cortex moteur s'active comme quand vous courez. Donc l'information est bloquée au niveau du tronc cérébral. Donc c'est pas que vous imaginez que vous courez, c'est que vous courez vraiment. Et donc c'est vraiment ce côté-là, je pense, qui fascine les gens. C'est à la fois le côté je le vis pour de vrai. Et il y a des choses que je contrôle pas, il y a des choses que je contrôle. Du coup, c'est une sorte de jeu vidéo fantastique, 3D, multisensoriel, pour de vrai.
Est-ce qu'on peut l'encourager, ça, justement, puisque ça nous fascine tant?
Et du coup, il y a effectivement... Je suis très sollicitée sur cette question-là, à différents niveaux. Et c'est très difficile à étudier, encore plus que le rêve, parce que c'est assez rare. Ce qu'on a réussi à comprendre à propos du rêve lucide, avec les quelques études qui ont été faites, c'est que c'est une sorte de raté de réveil, en fait. Donc vous avez une partie du cerveau qui est réveillée, une partie qui reste endormie. Et du coup, c'est ça qui explique le mélange de cognition d'éveil et de cognition de sommeil. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on sait que c'est un raté de réveil, en vérité, en fait, c'est pas un état qui est censé arriver physiologiquement. Il y a 50% des gens dans la population qui ont déjà fait un rêve lucide, et des rêves lucides fréquents, on tombe vers une dizaine de pourcents de la population. C'est vraiment pas censé marcher comme ça, apparemment. Et moi, je n'irai pas dans le sens de recommander l'entraînement au rêve lucide, parce que toutes les méthodes d'entraînement du rêve lucide, elles ont tendance à déstructurer le sommeil. Elles demandent aux gens de se réveiller régulièrement, plusieurs fois par nuit, et c'est une très mauvaise idée.
Donc, contentons-nous de rêver autour de la question comment s'inspirer de ces rêves nocturnes ou éveillés? On s'interroge en écoutant le groupe REM, comme Rapid Eye Movement sur RFI, c'est votre choix. Perrine Ruby, Choose Your Religion.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Le dream, le rêve du groupe REM sur RFI, REM comme Rapid Eye Movement. Perrine Ruby, c'est le mouvement de nos yeux pendant notre sommeil paradoxal, pendant qu'on rêve.
Mais oui, ça me fait très plaisir que vous ayez passé cette musique parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte 20 ans après que en fait, moi, c'était mon groupe préféré quand j'étais adolescente. Et des années après, je me suis mis à travailler sur cette question du rêve et du sommeil paradoxal, dont l'autre nom en anglais, c'est Rapid Eye Movement Sleep. Et le choix du nom du groupe a été pour cette raison. Ça a été inspiré par cette phase de sommeil. Du coup, je trouvais
donc
ça...
Donc il y a de l'intuition, même dans votre recherche sur les rêves, dans vos choix musicaux.
Une cohérence interne, on va dire.
Et qui se révèle.
La dernière chose que je veux dire à propos de REM, c'est qu'ils ont aussi un titre qui s'appelle Shiny Happy People, qui je pense aurait été très d'actualité aujourd'hui, qui doit être à peu près l'état de tous les Français actuellement.
Oui, parce que justement, en ce jour de lendemain de Coupe du Monde de foot,
réussi.
C'est un rêve, ça aussi c'est un rêve. C'est quoi? C'est le rêve de tout un pays, on peut le dire comme ça?
Oui, j'ai l'impression qu'on se sent tout petit. Il n'y a pas beaucoup d'occasions aussi joyeuses quand même qu'on peut partager aussi collectivement. Du coup, je pense que c'est exceptionnel pour ça, en fait.
Et on peut parler, parce que le mot rêve en français est dans toutes les langues, hein, on rêve la nuit, mais c'est aussi nos rêves, peut-être pas un hasard, si finalement c'est le même mot qui parle de nos rêves éveillés, de nos rêves, de nos espoirs et de nos nuits. Ariana, qu'en pensez-vous?
C'est vrai que cette question-là de qu'est-ce que c'est les rêves, c'est aussi déjà selon les langues. En plus, les verbes rêver, ça peut aussi indiquer, par exemple, des expériences. C'est beaucoup plus fluide la frontière entre rêve et état d'éveillé. Par exemple, au Pérou, il n'y a pas de distinction entre les rêves de la nuit, mais aussi des hallucinations qu'on peut avoir dans la journée, des visions. Donc aussi, les mots rêver selon les langues peut vraiment accéder à tout un état des expériences qui sont beaucoup plus fluides de ce qu'on pense.
Et autour de la question des rêves, justement, et de l'inspiration onirique, je vous propose une nouvelle question soulevée cette fois-ci par Emmanuel Bigan, également chercheur en neurosciences, mais aussi musicien, et qui s'intéresse à l'effet de la musique, à l'impact de la musique sur notre cerveau. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Une petite question sur le lien entre la musique et les rêves. On sait que la nuit, le cerveau passe en revue toutes les choses qu'il a faites dans la journée. Et je me demandais simplement si les musiques qu'on a entendues dans la journée peuvent avoir un impact sur les rêves que l'on fait pendant la nuit.
Barbara Carlotti, les musiques que vous entendez pendant la journée, vous avez l'impression que vous les réentendez peut-être en rêve? Comment pourriez-vous répondre à Emmanuel Bigan?
En fait, il y a plusieurs cas de rêve avec des musiques. Parfois, on croit qu'on invente une musique en rêve, mais en fait, c'est pas du tout. C'est une musique qui existe déjà. Mais
on se la rejoue
pour le rêve. On se la rejoue et on la redécouvre comme pour la première fois. Et donc, on a l'impression de l'avoir créée. Après, il y a des choses qu'on crée, effectivement. Moi, la chanson « Voir les étoiles tomber », le refrain m'est venu en rêve et il n'existait pas. J'avais de la chance, parce qu'il faut vérifier en fait après un rêve si ça existe ou pas en fait, parce qu'effectivement
si ça vient de notre propre subjectivité,
voilà,
ou,
c'est ça.
Ou
si
du collectif.
C'est un souvenir ou si c'est vraiment quelque chose. Et après, je pense que les compositeurs, ils composent vraiment en rêve, donc ils agglomèrent sans doute des choses qu'ils ont entendues, mais c'est quand même une création.
Autour de la question pourquoi et comment s'inspirer de nos rêves, je propose de laisser, on va pas dire le mot de la fin, on arrive bientôt à la fin de cette émission, à une juriste, Karine Lefeuvre. Elle est spécialiste du droit des plus vulnérables, membre du Comité consultatif national d'éthique. Elle était récemment notre invitée. Allez, je la laisse parler.
Alors pour le petit clin d'œil juridique, il y a la liberté de penser, mais il n'y a pas le droit de rêver inscrit dans le code civil ni dans le code pénal. I have a dream. One day. One day. One day. This nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created.
Si on se laissait inspirer par nos rêves, le droit de rêver inscrit dans la Constitution, ça vous inspire quoi, Ariana?
Moi, ça m'inspire beaucoup. Et surtout, par exemple, dans les quartiers nord, beaucoup des personnes...
Quartiers de Marseille.
Des Marseilles, oui. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rêver parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et là, ça fait parler aussi de qu'est-ce que ça veut dire. Dormir, c'est s'abandonner dans un lieu Et si les lieux, c'est pas, par exemple, c'est un lieu dégradé, alors c'est pas possible sans dormir. Donc, je pense que les droits des rêves aussi liés au droit d'un sommeil dans des lieux qui soient adaptés au sommeil et aussi la vie des gens qui soient. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans mes recherches qui est actuelles. Les manques des rêves par le manque de sommeil et cette une possibilité de dormir aussi.
Périne Ruby, est-ce qu'on peut vivre sans rêver? C'est une question, ça. Est-ce que dans ces cas-là, par exemple, on dort sans se rendre compte qu'on rêve ou est-ce qu'on ne rêve plus parce qu'on ne peut pas bien dormir et qu'on ne peut pas rêver?
Ça, c'est pas très clair. C'est le vrai problème méthodologique qu'on a avec la question du rêve. Comme on n'a pas de marqueur physiologique qui nous pourrait nous dire que quelqu'un qui est endormi est là en train de rêver, eh bien, il nous reste que le souvenir du rêve au réveil. Et du coup, le souvenir et la production du rêve sont aplatis dans le rapport. On ne peut pas faire la différence entre la production et le souvenir. C'est-à-dire que quand vous ne vous souvenez pas d'un rêve, vous ne savez pas si c'est que vous n'en avez pas fait ou si c'est que vous l'avez oublié. Donc là,
on ne peut pas répondre à cette question.
On est embêté sur cette question actuellement, mais et très probablement que des gens qui ne se souviennent pas de leur rêve, ça n'est pas qu'ils ne rêvent pas.
Mais on pourrait vivre sans rêver ou est-ce que finalement pour vivre il est obligatoire de rêver? Alors la nuit et la journée peut-être aussi, mais ça c'est encore une autre question.
Mais ça nous lance sur une question très épineuse de la définition du rêve.
Que je ne vous ai pas posée au début d'émission mais que je vais vous poser maintenant.
Vous avez bien fait.
Ben oui, maintenant.
Non, c'est très difficile en fait, par définition, les définitions évoluent avec l'évolution des connaissances. Du coup, quand on a fait une association forte entre sommeil paradoxal et rêve, la définition du rêve, c'était le sommeil paradoxal, j'ai envie de dire, un état qui revient toutes les 90 minutes, etc. Et du coup, tout ce qui était le sommeil paradoxal était attribué au rêve. Et là, maintenant, on sait bien que non, donc on ne peut plus dire ça. Donc on peut plus dire. Et du coup, ce n'est plus un état physiologique. Vraisemblablement, ça peut arriver dans tous les stades de sommeil, donc dans des états physiologiques complètement différents. Ça pose la question de est-ce que si on n'a pas de langage, on peut parler de rêve ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Enfin bref, donc pour pouvoir répondre à la question de qu'est-ce que ça ferait si on ne rêvait pas, il faudrait déjà qu'on sache si c'est possible de ne pas rêver, ce qui ne me semble pas très clair.
Parce qu'en plus, on sait aussi que tous les animaux rêvent. Vous parlez du langage à l'instant, on voit bien les chats qui essayent d'attraper les souris en dormant.
Les chats font du sommeil paradoxal, comme beaucoup d'animaux. Dans quelle mesure ils rêvent ou pas? C'est très difficile de répondre.
Ah, en tant que scientifique, vous ne pouvez pas dire.
Du fait de ce problème de définition. On sait qu'il fait du sommeil paradoxal. Moi, la question du rêve sans conscience, ça me pose un peu de problème. Donc, la question de la conscience de l'animal, je vous la laisse. Moi, je ne sais pas y répondre.
Et est-ce qu'on pourra un jour, ça vous allez pouvoir m'y répondre peut-être, est-ce qu'on pourra un jour, je ne sais d'ailleurs pas s'il faut le souhaiter, lire dans nos rêves, Barbara parlait d'imagerie, est-ce qu'on pourra un jour lire dans le contenu, dans la matière même, dans le tissu de nos rêves, Périne Ruby?
Et bien ça évoque Paprika de Satoshi Kon, qui est un remarquable film d'animation qu'il faut absolument que vous regardiez.
Paprika,
et ça commence à être assez ancien, c'est extrêmement réussi, extrêmement d'actualité. Ça met en scène un chercheur qui a réussi à visualiser les rêves de dormeurs pendant qu'ils sont en train de rêver. Et du coup, ça pose énormément de questions. Le film est très bien fait.
Mais vous nous renvoyez au cinéma parce que les chercheurs ne peuvent pas y répondre aujourd'hui. Tant mieux d'ailleurs qu'on ne puisse pas lire dans la matière même de nos rêves.
C'est-à-dire lire, il y a deux choses. Dans quelle mesure on pourrait visualiser les rêves de quelqu'un pendant qu'il est endormi? Ça, je pense que dans 500 ans, je reviendrai pour voir. Mais à mon avis, on n'y sera encore pas. Et après, la question de l'interprétation... là, il n'y a pas d'interprétation validée scientifiquement. Et c'est pareil, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plusieurs interprétations possibles qui font sens dans différents contextes. Donc, c'est pas très facile de répondre à votre question.
Barbara Carlotti, je ne vais pas vous demander de répondre, mais je vais vous demander quel rêve vous aimeriez inspirer à nos auditeurs.
Oh, c'est difficile, ça. Non, moi, je pense que plutôt les encourager à rêver, à s'intéresser à leurs rêves, je pense que c'est ça, peut-être le but d'une émission comme celle-ci, et de voir aussi tous les travaux qui sont faits, toutes les recherches qui sont menées de part et d'autre, aussi bien dans les sciences cognitives que l'anthropologie, que que, enfin, je pense qu'il y a le rêve peut.
Plus que le droit à rêver, c'est l'invitation, l'invitation au rêve. Hein,
ouais, c'est ça,
hein.
L'invitation au rêve. Ouais. Il faut, je pense qu'il faut, il faut s'intéresser à ses rêves et il faut rêver. Je pense que ça amène des surprises dans la vie très intéressantes. Voilà.
L'invitation au rêve, Ariana, c'est ça aussi que vous encouragez finalement en recueillant, en collectant les rêves dans les quartiers nord de Marseille et ailleurs, hein, en Espagne, en Italie, après l'avoir fait au Pérou ou ailleurs, pour inviter aussi les gens à partager, à retrouver peut-être ce que vous avez découvert dans des sociétés plus traditionnelles, ce partage de rêves.
Oui, je pense que ces partages, ça donne beaucoup dans l'échange. Les rêves, c'est vraiment le lieu du possible et des fois des personnes qui sont étiquetées par soit des vies ou des. Les rêves, c'est vraiment quelque chose qui permet d'explorer autre chose, des soi, des autres, et même la relation, donc partager les rêves, c'est aussi découvrir d'autres aspects des autres aussi. Et donc je trouve que c'est une bonne invitation parce que ça peut changer aussi les relations sociales.
Merci infiniment à toutes les trois d'être venues en direct pour nous encourager à rêver. Quel bel encouragement. Pour en savoir plus et pour rêver encore plus, alors qu'est-ce que je peux citer? Évidemment Magnétique, votre dernier album. Barbara Carlotti a consommé de jour comme de nuit, sans modération. On peut aussi aller sur la page Ariana Cecconi, sur votre page d'Oniroscope, oui. C'est bien comme ça qu'on dit, oui, Oniroscope, le lien est évidemment sur notre page, et on peut aussi citer, c'est vous qui le souhaitez, donc nous allons le faire, Perrine Ruby, un spectacle à venir de Marien Tillet, c'était pas au cinéma, c'est au théâtre, qui s'appelle Paradoxal, à suivre de très près. Merci d'être venu nous encourager à rêver. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Sophie Janin à la réalisation, Marjorie Bertin et Alexandre Reza-Kokabi en coulisses. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. Faites de beaux rêves, surtout éveillés ou pas. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, dans une minute, après les bandes annonces.